L'Afrique en jeu, Silver Henri Cissé.
Pour tous, policiers ou médias, Richard Jewell était l'assassin idéal. Mais aujourd'hui, il a reçu une belle lettre. Le FBI ne le considère plus comme un suspect. Quatre lignes pour mettre fin au cauchemar de l'ancien vigile, sans un mot d'excuse de la part du procureur. Car ce sont des fuites du côté du FBI qui ont désigné cet ancien policier à la vindicte de l'Amérique, en plein Jeux Olympiques. La bombe du parc du Centenaire avait fait 2 morts, 118 blessés. Richard Jewell fut d'abord considéré comme un héros. Il avait repéré le sac suspect et fait évacuer la foule. Mais bientôt, à la une, on apprenait qu'en fait, pour le FBI, tout le désignait. Mal noté par ses supérieurs, faisant de l'excès de zèle, vivant seul, il était le portrait idéal de l'Américain voulant devenir une star. Sa vie privée fut étalée au grand jour, par les médias, jusqu'à 50 caméras postées nuit et jour devant son domicile, par ses anciens collègues qui distribueront son dossier personnel sans autre forme de procès. L'Amérique chassait le traître.
A été dit, écrit sur cette injustice. Clint Eastwood a même tourné un film sur cette étonnante histoire au cœur des Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta avec le long métrage Le cas Richard Jewell. Le vrai coupable, un fondamentaliste religieux homophobe et anti-avortement, ne fut arrêté qu'en 2003. Mais la vie de Richard Jewell, que le FBI croyait coupable à tort, alors qu'il avait sauvé des vies, fut brisée à jamais. Nous pourrions en parler aujourd'hui dans l'Afrique en jeu, mais nous allons nous intéresser à la petite histoire dans la grande histoire qui a débuté aux Jeux Olympiques d'Atlanta et qui concerne Jamil Faye, notre invité de ce jour, au parcours qui contient lui également une part d'extraordinaire. L'Afrique en jeu, c'est aussi une photo et une histoire avec le combat de la sprinteuse américaine Alix Felison, parvenue à faire plier l'équipementier Nike dans une bataille judiciaire où Allison a eu raison de Goliath. Et nous inviterons la sociologue Béatrice Barbus, très engagée dans la cause des femmes, pour vous proposer aujourd'hui des conseils pratiques pour lutter contre le sexisme dans le sport. L'Afrique en jeu, et que ça fait du bien de le dire, J+1, c'est maintenant. Jamil Faye, merci d'être avec nous dans l'Afrique en jeu.
Bonjour Sylvain Cissé, toujours heureux d'être à RFI.
Jamil Faye, votre lien avec l'olympisme débute à Atlanta 1996. Comment avez-vous vécu l'attentat à la bombe où Richard Jewell a été accusé, puis innocenté?
J'ai eu, une chance, une malchance d'être sur les lieux de l'attentat le soir et sans pour autant savoir qu'il y avait un attentat, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est en rentrant au village le soir que les gens avec qui j'étais, la délégation cambodgienne, me cherchaient en me disant « Mais t'étais où ? » On nous a dit que t'étais parti au parc et il y a eu un attentat, donc on s'inquiétait pour toi. Et je ne savais pas, donc je l'ai découvert comme ça.
Vous allez vous en rendre compte, il a eu une vie extraordinaire dans l'olympisme en 30 ans de carrière. C'est un véritable casse-tête de vous qualifier, Jamil Faye. Vous avez occupé tous les postes possibles dans l'organisation des Jeux Olympiques. Alors qu'est-ce que vous êtes? Un consultant, un expert, un dirigeant pour les Jeux Olympiques?
Ça dépend des pays. Parce qu'en Chine, on m'appelait expert. Dans d'autres pays, c'est consultant. Dans d'autres pays, c'est conseiller. Donc voilà, je laisse le choix à ceux qui demandent mes services de me donner la truie.
Parce que vous avez travaillé pour différentes délégations durant votre carrière.
Oui, j'ai commencé au fait au Cambodge, ma première expérience, où j'ai eu la chance de contribuer à la restructuration du sport du pays après deux décennies de guerre.
Quels trois pays?
Alors, Singapour, la Chine, la Grèce, l'Australie, actuellement l'Arabie Saoudite et les États-Unis aussi.
En prévision de Los Angeles 2028. Et vous êtes aussi un modeste équipementier. Combien de pays équipez-vous à Paris 2024?
Paris 2024, 8 pays. C'est un peu moins que ce qu'on a fait notre maximum, mais on fait quand même 8 pays. Et pour la première fois aussi, un pays en dehors de l'Afrique, qui est la Palestine. Donc, voilà.
Vous avez vécu 1001 histoires en près de 30 ans d'expérience olympique, Jamil Faye. Et vous avez accompagné un jour l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, aux Jeux Olympiques de Pékin. Et le président sénégalais a vécu un enfer.
En fait, c'est quand j'étais responsable en fait, du village des Jeux de Beijing en 2008. Et effectivement, à l'époque, le président Abdou Diouf était président de la francophonie, je me souviens, ou secrétaire général, je ne sais plus quel le titre.
Le secrétaire général de la francophonie.
Avec M. Raffarin. Et les Chinois avaient vraiment du mal à lui accorder le protocole nécessaire. Et chaque fois, en réunion avec les Chinois, je ne comprenais pas.
Le protocole qui va avec un ancien président.
Voilà, oui, et qui représente aussi la francophonie et tout ça. Et j'avais pas de réponse. Jusqu'un jour, quelqu'un chinois me pose plein de questions. Et c'était vraiment marrant, parce qu'il voulait dire les choses sans les dire. Il me disait, mais c'est l'ancien président du Sénégal. Je dis, oui, c'est pas lui qui avait accueilli Taïwan au Sénégal. Oui, et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment...
La reconnaissance de Taïwan.
Voilà, et ça passait pas. Donc, on a dû négocier ferme pour pouvoir... amener les Chinois à lui donner
le protocole nécessaire.
Le protocole nécessaire pour qu'il puisse vraiment visiter le village, etc.
Pour ceux qui en doutent encore, le sport et politique, encore plus les Jeux Olympiques. Une autre anecdote que vous avez en mémoire, c'est un volontaire qui vous a laissé un souvenir impérissable. Et là, on parle des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Oui, vous savez, les volontaires jouent un rôle extraordinaire dans les Jeux. Et je vous dis, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut organiser des Jeux Olympiques sans les volontaires. Ils sont partout, transport, protocole. Et dans ces protocoles, vous avez vraiment tout. Des gens d'un niveau social extrêmement élevé, des étudiants et autres. Et à Sydney, effectivement, on avait un volontaire qui était le directeur général de General Motors, de General Motors Australie. Donc, vous voyez un peu. Et il y avait un de mes amis burundais qui était chef de mission du Burundi et qui était très satisfait de ses volontaires. Et un jour, il vient me voir, mais complètement mal à l'aise, en me disant « il faut que je te parle ». Et j'ai dit « ben oui ». Il me dit, c'est à propos de mon volontaire, il me donne le nom. J'ai dit, il ne peut pas y avoir de problème avec lui. Il me dit, oui et non. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il me dit, bon, nous, en tant qu'Africains, comme le gars était très gentil avec nous, on a voulu voir chez lui, quoi, qu'il nous invite chez lui. On a insisté. Et finalement, il a accepté. Il m'a dit, on est rentré chez lui, et depuis, j'ai peur de lui donner des ordres. Il me dit, mais c'est qui ce gars-là? J'ai dit, écoute, je ne peux pas te dire qui il est. Il me dit, mais il faut que tu me dises. Et après, il me dit, mais comment je vais faire demain? Parce que je peux lui demander d'aller chercher des invités ou d'aller conduire la voiture. J'ai dit, mais écoute, tu fais comme s'il était un volontaire X.
En quelques mots, vous avez mal au cœur à cause de Nelson Mandela, qui vous a brisé le cœur, Jamil.
Nelson Mandela, une référence pour tout le monde, africain, pour tout le monde. Et j'ai Sam Ramsamy qui était un peu, je dirais, son bras sportif.
Et nous
Sam,
sommes toujours à Sydney,
à Sydney
2000.
En 2000. Et Sam Ramsamy, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'excellentes relations. Et c'est lui qui était un peu le bras sport de l'ANC pour faire le tour du monde, qui est membre du CIO, qui faisait la campagne pour que les pays ne reconnaissent pas l'Afrique du Sud. Et donc, il y a eu demain. Il m'avait dit que Nelson Mandela allait venir au village et qu'il fallait que j'aide pour mettre la logistique avec sa délégation. Donc, j'ai tout organisé avec lui. Et le matin-là, ben, j'ai décidé de ne pas mettre le réveil. Et donc, j'avais envie de rencontrer Mandela, bien sûr, mais je m'étais dit, bon, il vient au village, il n'aura pas le temps pour toi. Et Sam Ramsamy m'appelle le matin à 8h30. Jamil, tu es où? Mandela va arriver au village. Mon téléphone est là, je dors. Une demi-heure après, Jamil, tu es où? Mandela arrive. Et donc, c'était des messages comme ça, toutes les demi-heures, pendant 2 heures. Et le dernier, il dit, Jamil, tu es où? Mandela s'en va et tu n'auras pas l'occasion de le rencontrer. Je ne sais pas où tu es, mais c'est dommage. Et quand je me réveille, j'écoute les messages, j'avais envie de retourner le temps à l'arrière. Et
vous y pensez toujours, hein, à ce moment-là.
Voilà, c'est quand même, c'était un moment important. Bon, après, personnellement, mais bon... C'était dommage.
Nous restons toujours à Sydney. Et là, c'est un truc incroyable. Vous avez passé 5 jours en réunion à cause de l'Égypte.
L'Égypte, oui. Vous savez, y a, pour que les gens comprennent, aux Jeux Olympiques, avant que les délégations viennent, il y a tout un processus. Et ça prend des années pour vérifier les qualifications et tout ça. Et donc, chaque pays doit faire une réunion d'entrée au village. Mmh. Et il faut que tout le monde soit en règle, sinon la délégation ne rentre pas. Que vous soyez des États-Unis, le Sénégal ou le Mali, ça importe peu. Et l'Égypte, on avait un problème avec 4 ou 5 athlètes. Et bon, vous savez, dans le monde arabe, souvent, vous êtes Abdallah, Bin Khalifa, Mohamed.
Avec voilà. De très nombreux prénoms et parfois 2 ou 3 noms.
Exactement. Et on avait dans la boxe quelqu'un qui était qualifié sous le nom d'Abdallah Mohamed. Mmh. Et eux, ils l'ont inscrit sous le nom d'Abdallah Majid. Et donc, pour nous, ce n'était pas la même personne. Donc, il fallait prouver que cette personne qualifiée et cette personne inscrite, c'était la même chose. Donc, ça durait 5 jours. Et il y avait le général Fouli qui était vraiment le protecteur du président Nasser à l'époque. Et qui était chef de mission. Et lui, son rêve, c'était de rentrer dans le village. Il voyait le village. On faisait des réunions dans une salle où on voyait le village. Et chaque jour, à 17h, je lui disais, « Général, vous retournez à l'hôtel, vous ne pouvez pas rentrer au village. Et il me disait, mais ce n'est pas possible. I want to see the village. Je veux voir le village. Et ça a duré 5 jours. Et je me souviens toujours, le jour où il a été, entre guillemets, libéré, il m'a sauté dessus. Et il était tout heureux de rentrer dans le village. C'était la première fois pour lui d'être chef de mission, quoi.
Un jour, vous avez dû négocier pour un chef de mission, notamment du pays de la RDC, qui a été séquestré. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être séquestré, ce chef de mission ?
Alors, c'est marrant, c'est les athlètes, vous savez, les athlètes touchent des perdiums et autres, en village. Et je pense qu'il y avait des retards dans le paiement des perdiums. Et les athlètes sont révoltés, au fait. Et un jour, pareil, j'étais chez moi en disant, ce soir, je ne vais pas au village, je me repose, et le téléphone sonne. Un des athlètes qui me dit, monsieur Jamil, vous êtes où? On a besoin de vous voir. J'ai dit, non, pas aujourd'hui, demain. Il me dit, non, ce soir, obligatoire. Bah, j'ai dit, non, il n'y a pas d'obligation, je ne peux pas. Et il me dit, oui, mais c'est trop important. J'ai dit, mais dites-moi. Il me dit, non, on ne peut pas vous le dire, on doit vous voir face à face. J'ai dit, mais si vous ne me dites pas, je ne viens pas. Et là, ils me disent, on a séquestré le chef de mission. J'ai dit, mais vous êtes fou. Et moi, tout de suite, j'ai pensé, je me dis, mais ça va être pris par les médias, quoi, et ça va être catastrophique pour eux, pour l'Afrique. Et donc, je prends la voiture, je fonce au village. Et ils ouvrent la porte et ils nous jettent dans la pièce avec le chef de mission, ils nous enferment, quoi. Donc j'ai dû négocier pour avoir une garantie. Ben, ça, c'est vraiment pas mon rôle du tout, quoi. Ouais. C'est une histoire de délégation. Bon, les athlètes avaient confiance en moi parce qu'on s'était connus, ils avaient des problèmes que j'ai pu gérer. Et finalement, à 2h du matin, on a pu un peu dénouer la situation et tout le monde est rentré se coucher, quoi.
Votre vie est faite de tas d'instants extraordinaires. Ce sont ça, les Jeux Olympiques. Et en fait, votre métier, c'est quoi ? C'est vendre de la matière grise pour trouver des solutions dans le quotidien des Jeux Olympiques.
Mais c'est marrant ce que vous demandez, Sylvain-Henri, parce que dans les JO, au fait, vous êtes toujours scénario A, B, C, D. Donc, à chaque scénario, vous devez trouver une réponse. Mais pour mieux répondre à votre question, il y a un volontaire qui m'avait dit, c'était à Athènes, je pense. Il me dit, ouais, M. Jamil, vous avez donné 150 000 scénarios, mais il n'y a rien qui se passe. Et le lendemain, il est venu en me disant, les scénarios commencent à tomber. Et c'est ça, au fait, vous êtes obligé de planifier et d'anticiper. Et ça, vous ne pouvez jamais savoir qu'est-ce qui peut se passer sur un site de compétition, dans un hôtel, dans une compétition. Donc, vous êtes obligé d'avoir des prévisions qui vont être justes ou des fois, vous avez des surprises. Et là, c'est à vous de développer. Voilà.
Je suis sûr que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment ont envie de travailler pour les Jeux après vous avoir entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler pour le CIO, pour les Olympiques? Qu'est-ce qu'il faut faire comme vous? Ça a commencé comment pour vous?
Il faut avoir des fois de la chance. Moi, je n'ai jamais pensé au fait de travailler pour les JO. Je pense que quand j'étais avec le Cambodge, on était à Atlanta aux Jeux Olympiques et il y avait l'Australie qui avait une présentation. Et c'est marrant parce que la présentation était tellement belle, ça donnait envie. Et je suis allé voir le gars, Bob, qui est devenu mon patron après, en lui disant « Mais félicitations ». Il me dit, bah, merci. Il regarde mon badge, CAM, c'est le Cambodge. Donc lui, il me dit, Africain, ah, vous êtes du Cameroun. J'ai dit, non, je suis du Sénégal, mais je représente le Cambodge. Il me dit, non, attendez, dites-moi un peu plus. Et on a discuté. Il m'a donné sa carte en me disant, mais un jour, je vous appellerai peut-être. Donc il y a le facteur chance aussi. Et je me dis à tout le monde que les JO et le sport en général, c'est le seul secteur, en tout cas que je connaisse, qui réunit tout le monde, tous les corps de métier, chauffeurs, mécanicien, restaurateur, marketeur, communicateur.
Donc tout est possible.
Donc tout est possible. Et au fait, nous, dans les Jeux, souvent, on recrutait des gens, sachant qu'ils n'ont pas d'expérience, mais on voulait leur aspect communication ou marketing. Et après, on les formait pendant 2-3 mois pour les mettre au diapason.
Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas la jouer comme Beckham, mais de la jouer comme Jamil Faye, si vous voulez un jour travailler au comité olympique et vivre des petits et grands riens extraordinaires. Merci d'être venu aujourd'hui dans l'Afrique en jeu, Jamil Faye.
Merci Silver de m'avoir accueilli. Merci aussi à tous les éditeurs qui écoutent cette émission et spécialement ceux de Guédiawa et au Sénégal.
Eh bien, on va les encourager maintenant à écouter Une femme inspirante.
Une femme, un destin.
Avec une femme engagée. Merci Béatrice Barbus d'être avec nous.
Bonjour Silver.
Béatrice Barbus, vous êtes sociologue, universitaire, auteur des ouvrages Le sexisme dans le sport, qui a été un succès à sa sortie, et dirigeante sportive et Plafond de verre, une histoire inachevée. Vous êtes également vice-présidente de la Fédération française de handball. Alors, considérez-vous comme une victoire ces premiers Jeux paritaires, même nombre d'athlètes, femmes et hommes, à Paris 2024, qui est une première d'ailleurs aux Jeux Olympiques.
Alors, une victoire pour qui? Pourquoi? Non, ce ne sont pas une victoire, puisque la parité exprime une parité, c'est d'abord sur le plan numérique. Donc, Donc c'est une étape, mais qui ne doit pas nous satisfaire. La parité n'est pas synonyme d'égalité entre les hommes et les femmes, et là en l'occurrence entre les sportives et les sportifs. Donc satisfaite d'un côté, parce que, et en même temps c'est la suite logique de l'histoire, les femmes étaient 47% je crois à Tokyo, 42% à Londres, donc depuis 1896 jusqu'à 2024, vous voyez, il aura quand même fallu attendre 128 ans pour avoir la parité numérique, ne serait-ce que numérique.
Vous êtes très engagé dans la lutte pour l'égalité de genre et contre le sexisme dans le sport, et vous allez nous donner quelques petits tips, notamment pour les auditrices qui nous écoutent en ce moment, quelques petites solutions. Pour vous, le mot d'ordre est la gouvernance. Il faut que les choses bougent par la gouvernance. La féminisation des postes de dirigeants est obligatoire.
Oui, absolument. L'hypothèse que je fais et qui semble être concluante, eu égard à ce que l'on fait et on mène à la Fédération française de handball, c'est l'idée que si on féminise beaucoup plus la gouvernance, donc s'il y a des femmes au sein du pouvoir sportif, au sein des organisations sportives, beaucoup plus qu'il y en a actuellement, du fait qu'elles sont elles-mêmes des femmes, elles sont plus sensibles à la question de la place de la femme dans le sport et notamment des sportives. Donc j'ose espérer que lorsqu'il y a des femmes à des postes de pouvoir, elles ne prennent pas systématiquement des décisions qui vont contre les femmes. Pour autant, je dis bien pour autant, les femmes peuvent être aussi fortement sexistes. Mais ce que je veux dire là, c'est que l'hypothèse est en effet, c'est une des solutions, féminiser un petit peu plus, beaucoup plus même la gouvernance du sport, et ça permettra, à mon avis, de faire avancer beaucoup plus vite la cause des femmes dans le milieu sportif.
Béatrice, l'indignation, elle n'est pas suffisante, il faut développer des tactiques pour prendre les pouvoirs. Alors, quelles tactiques faut-il développer ?
Alors après, la question qui s'oppose, qui est essentielle en effet, c'est comment y arriver et y parvenir. Donc là, il faut effectivement savoir faire preuve de tactique. D'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut arriver à convaincre les hommes qui sont au sein du pouvoir de l'organisation en question. Ensuite, il ne faut surtout pas y aller toute seule. Il faut être plusieurs femmes pour monter au créneau et revendiquer un certain nombre de choses. Donc nous, par exemple, à la Fédération française de handball, on a mis l'accent sur la formation des femmes pour les faire monter au pouvoir organisationnel. On a depuis 10 ans, formé plus d'une centaine de femmes. Aujourd'hui, je vois les résultats. Ce sont des femmes qui prennent des responsabilités au niveau départemental, au niveau régional, au niveau des clubs, la présidence et même au niveau fédéral, puisque ça fait maintenant 2 mandatures où on peut proposer des listes aussi bien au niveau régional qu'au niveau fédéral, des listes qui sont parfaitement paritaires. Alors, la tactique, elle est là. La tactique, elle est d'essayer de trouver des alliés EES et de monter à 2 ou 3 ou 4. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête. Une fois qu'on est dans la place, une fois qu'on a été élu, quelle que soit la fonction que l'on occupe, et là encore, il y a du chemin à faire parce que souvent, ce sont des fonctions secondaires et pas des fonctions qui sont importantes stratégiquement. Donc, ce sont plutôt des fonctions de secrétaire général, voire de vice-présidente, voire de trésorière et plutôt en dehors du terrain sportif. Donc, on voit qu'on est à certaines places seulement, mais ce n'est pas grave. C'est une étape qu'il faut passer. Alors ensuite, une fois qu'on est plusieurs, ça devient plus facile. Moi, j'ai testé les deux. Dans le club que j'ai présidé, j'étais un petit peu, alors que mon équipe était composé quand même à 75% de femmes, mais j'étais tout de même qu'avec des hommes et c'est là que j'en ai pris plein la tête, comme je le raconte dans mon premier livre du sexisme dans le sport. Mais une fois que vous êtes accompagné, une fois que vous avez des alliés ES, qui est le cas de la Fédération française de handball, les choses sont beaucoup plus simples. D'abord, vous pouvez vous organiser informellement, comme les hommes le font dans le champ politique, comme ils le font dans le champ de l'entreprise, comme ils le font dans le champ du sport. S'organiser d'un point de vue informel, c'est facile aujourd'hui avec tous les moyens technologiques et les réseaux sociaux.
À partir de quel pourcentage de femmes dans les instances avez-vous remarqué un point de bascule notable, notamment dans les institutions que vous avez observées ou dans lesquelles vous vous trouvez ?
Moi, je ne l'ai pas observé directement, mais ça a été fait par des enquêtes et des études américaines par le passé. C'est que dès qu'on dépasse un tiers, il faut dépasser
30%.
Le seuil d'un tiers. Ouais, 30%. En deçà d'un tiers, il est difficile d'exister véritablement. Au-delà d'un tiers, on peut commencer à former un contre-pouvoir et donc faire pression et donc être influente. Parce que c'est ça, au fond. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu ne te présentes pas, toi, comme présidente ? Mais l'important, ce n'est pas seulement d'avoir le pouvoir ultime. Le pouvoir, pour leur pouvoir, ça n'intéresse bien souvent que les hommes. L'important, c'est d'être influent. Le pouvoir, c'est de l'influence en puissance. L'influence, c'est du pouvoir en action. Donc moi, je préfère être influente. Donc être influente, ça veut dire avoir effectivement quand même un poste suffisamment élevé, s'être bien entouré. Et là, on peut avoir une capacité d'influence. Au-delà de 30%, ça commence à devenir intéressant.
Un dernier mot, Béatrice. C'est l'information qui compte aussi. Par exemple, je le sais, vous me l'avez confié, il y a des femmes de fédérations sportives très haut placés qui n'hésitent pas à vous appeler pour se confier, pour que vous leur donniez aussi des solutions.
Oui, alors là, on est plus dans le mentorat et de soutien. Mais de la même façon, quand moi, je ne vais pas bien, je sais quelle femme appeler. Donc oui, c'est super important. Bien évidemment, je reçois des coups de téléphone de beaucoup de femmes de sport, toutes fédérations, comme moi, je peux en donner quand je ne vais pas bien ou quand je veux avoir une information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé ce petit réseau informel entre femmes de sport, notamment dirigeantes. On se connaît. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, on essaye de se soutenir et de faire preuve de sororité là où justement cette sororité est souvent peu fréquente dans les milieux de pouvoir.
Merci.
En toute bienveillance.
On peut vous lire dans vos deux ouvrages « Le sexisme dans le sport » et dirigeante sportive et plafond de verre, une histoire inachevée. Merci Béatrice.
Merci à vous, bonjour à tout le monde.
RFI, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Paris 2024.
Comme un vent de fraîcheur dans le studio de RFI dans l'Afrique en jeu, avec la reprise de Jamiroquai, Too Young to Die d'Olivia et le groupe Voilà. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des jeux. Aujourd'hui, Alison contre Goliath.
Very special one for me.
Celle-là est très spéciale pour moi. Ça a été une telle aventure pour arriver jusqu'ici. J'ai dû surmonter tant de choses et je suis juste très reconnaissante. Je voulais venir à Tokyo et me donner une chance, une dernière fois. Je pensais qu'elles me battraient toutes. Les filles comme Merlène Autet sont des légendes et elles m'ont inspirée. Je les respecte énormément. Sans elles, je ne serais pas là.
Cela peut vous surprendre. Alison Félix, au micro d'Olivier Pron de RFI, répond à l'arrivée de la finale du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo comme si elle avait gagné la course, alors qu'elle ne termine que troisième. Mais elle a un sacré motif de satisfaction. Avec cette médaille de bronze, à l'âge canonique de 35 ans, elle rentre dans la légende de l'olympisme en devenant l'athlète la plus titrée de tous les temps. Si elle est aussi heureuse, c'est parce qu'elle le doit à une autre victoire. Une autre victoire face au géant Nike. Alors, résumons l'affaire. En 2017, Alison Felix tombe enceinte. Son équipementier, Nike, au nom d'une clause de performance liée à la grossesse, réduit sa rémunération de 70%. Elle claque la porte de son équipementier et se fendra d'une tribune à charge dans le New York Times en mai 2019. Cette tribune a une résonance mondiale et suscitera une telle émotion qu'elle poussera la marque américaine à s'excuser et à ne plus impacter financièrement les athlètes pendant leur maternité. Après cette polémique avec une immense championne, Nike s'engagera à mieux protéger ses athlètes enceintes. Et comme dans une forme de défi, au cœur de l'été 2019, elle remportera au championnat du monde d'athlétisme à Doha son 12e titre mondial, devenant l'athlète possédant le plus de médailles d'or en athlétisme devant un certain Usain Bolt. Julie Gaucher, vous êtes agrégée, docteur en littérature française et chercheur en histoire du sport à l'université Lyon 1. Vous êtes autrice de plusieurs ouvrages sur le sport et le genre. Le combat d'Alison Felix, les premiers jeux paritaires, vous devez vous réjouir de ces avancées.
Effectivement, il y a une volonté politique d'avancer vers une plus grande parité. Vous évoquez les Jeux Olympiques de Paris, dont l'objectif paritaire il est affiché depuis longtemps. On peut aussi penser aux différents plans de féminisation qui ont été menés par certaines fédérations françaises sportives. Je pense à la fédération de foot ou à celle de cyclisme. Et effectivement, il faut sans doute s'en réjouir. Mais l'exemple d'Alison Felix confirme un état de fait. Pour qu'il y ait avancé, le plus souvent, il faut qu'il y ait une prise de parole des femmes, il faut qu'il y ait des revendications. Chaque avancée est finalement le résultat, la plupart du temps, d'un combat.
La sororité dont vous parlez, elle est souvent mise en avant aujourd'hui dans le combat pour l'égalité. Et pourtant, Alison Felix explique s'être sentie trahie par une des femmes puissantes de son équipementier qui lui avait promis un engagement pour aider les femmes à devenir plus indépendantes. N'est-ce pas trop angélique de revendiquer cette sororité comme un label de confiance ?
Alors, toutes les femmes sont loin d'être féministes, mais effectivement, vous parlez de Béatrice. Béatrice le montre très très bien dans ses travaux. Il faudrait toutefois qu'il y ait quand même davantage de parité dans les instances dirigeantes du sport. Le constat, il est simple. Si les femmes ne sont pas parmi les décisionnaires, toutes les problématiques qui sont spécifiques aux sportives ne vont pas venir sur le tapis. Et finalement, elles vont être vécues comme des choses accessoires, voire elles vont simplement pas être envisagées. Alors, mettre des femmes à la dirigeance du sport ne va pas régler tous les problèmes, mais devrait rendre audibles finalement les problématiques spécifiques au sport féminin.
Nous parlons de maternité. Qu'est-ce que vous pensez de la discobol française Mélina Robert-Michon, qui a 25 ans de carrière, 45 ans, qui participe à ses 7e jeux et qui a dit « c'est grâce à ma maternité que ma carrière a autant duré ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors effectivement, vous soulignez son exemplaire longévité, 23 fois titrée en championnat de France entre 2000 et 2024. Elle sera le porte-drapeau avec Florent Manaudou donc pour l'ouverture des Jeux. Et elle est effectivement maman de 2 enfants. C'est intéressant de voir que ce discours qui attribue la réussite des femmes à leurs enfants est un discours que l'on entend de plus en plus fréquemment. L'exemple me vient en tête de celui de la judokate Clarisse Abnédégou, championne du monde de judo en 2023, qui a déclaré cette médaille d'or. « Ma fille la gardera ». Et les arguments qui sont avancés ont généralement à voir avec la motivation. On considère que le fait d'avoir un enfant va générer une motivation supplémentaire, on gagnerait pour son enfant. Bon, c'est ce que nous dit Mélina Robert-Michon. Elle déclare en 2021 « ce qui pourrait être mes freins, ce sont mes forces », et en renvoyant à sa maternité. L'autre argument, c'est aussi qu'il y aurait un plus grand épanouissement, et donc ce plus grand épanouissement dû à la maternité serait propice à la performance. Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que ces modèles nous montrent que la sportive peut performer tout en étant mère, finalement, comme si elle pouvait gérer cette double carrière, à la fois de la maternité et du sport de haut niveau.
Il y a des véritables avancées, et il faut s'en réjouir. Merci, Julie Gaucher, d'être venue aujourd'hui dans l'Afrique en jeu. Merci à vous.
Au revoir.
L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonissier à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Mohamed Ali, qui a la même vision du monde à 20 ans qu'à 50 a perdu 30 ans de sa vie. Nous nous retrouverons même heure, même endroit la semaine prochaine. Toutes les émissions de l'Afrique en jeu sont disponibles en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.